Salut, ici Ziad Malouf de l'Atelier des médias. Ce samedi 13 février est la journée mondiale de la radio. Une célébration ayant cette année pour thème la radio en situation d'urgence et de catastrophe.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Atelier@rfi.fr.
Les rues étaient jonchées de cadavres. Dans les rues, il n'y avait plus de personnes vivantes, mais des morts. J'ai vécu ça, j'avais une maison là-bas qui était complètement détruite et une de mes sœurs était à la maison. Le réflexe premier, c'est sauver ma sœur qui était là parce que moi, j'étais au travail. Ce qui m'intéressait, c'est sauver ma famille, sauver ma mère aussi qui était à l'intérieur de la maison.
Watson Charles est haïtien. Il vit aujourd'hui en France où il est archiviste. Le 12 janvier 2010, jour du tremblement de terre qui a fait plus de 300 000 morts dans son pays, il était à Port-au-Prince. Après avoir secouru sa sœur et sa mère, toutes deux saines et sauves, il a souhaité s'informer sur d'autres proches et sur la situation dans l'ensemble du pays.
Moi, je me souviens, j'ai un ami qui vivait très loin. J'ai passé une heure à marcher pour aller le trouver, pour savoir s'il était en vie ou pas. Donc, il n'y avait pas de communication téléphonique parce que c'était complètement brouillé. Les antennes, c'était un peu difficile, disons, d'avoir des informations des proches. Mais après, il faut dire que la radio a joué un rôle parce que ça nous a permis de savoir quelle zone a été complètement impactée, quelle zone a été complètement détruite et qu'est-ce qu'on doit faire. Prévenir la population de rester dehors, de ne pas s'affoler. Un point de ralliement aussi, parce qu'elle nous dit qu'il faut aller vers tel hôpital. Là, il n'y a pas d'hôpital. C'est complètement détruit. C'est pour ça que moi, ma soeur n'était pas fracturée beaucoup, mais la radio nous a permis aussi de nous orienter vers d'autres points de secours. Donc, la radio nous sert de contact, de survie aussi.
Quand il n'y a plus d'électricité, quand les réseaux téléphoniques, filaires ou mobiles sont coupés, quand Internet ne répond plus, il reste la radio. Malgré toutes les évolutions en termes de technologie de la communication, le petit poste à pile est encore aujourd'hui une assurance d'accès à l'information dans les pires moments. Nous replongeons maintenant dans les années 70-80. À l'époque, Hen Malouf vit au Liban avec sa mère. Entre 1975 et 1985, année où elle s'installe en France, elle subit la guerre civile dans son pays. Une période de danger et de violence qu'elle surmonte, un poste de radio collé en permanence à l'oreille. Hen Malouf répond aux questions de Mélissa Barra.
On pouvait pas vivre sans la radio. Parce que, en fait, elle dirigeait. Il y avait à un moment donné où la radio nous disait « Vous allez telle place, n'allez pas telle place, il y a des francs-tireurs, telle place, il y a des bombardements, il faut pas... » Elle dirigeait, même les gens appelaient, on entendait « Je dois aller ce trajet, est-ce que c'est possible ?» Oui, vous pouvez faire tel détour, ne passez pas par là. Mais la radio a été vitale. On ne peut pas sortir sans la radio. Il faut entendre qu'est-ce qui se passe avant de quitter. Elle nous dirigeait, tout simple. Elle était très détaillée, au point que vous pouvez avoir une trajectoire dans votre tête. Je vais passer par là parce que là, ils ont dit, vous entendiez une bombe, vous ouvrez, 2 minutes après, ils annoncent un flash, ils disent exactement qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a des gens blessés, ils disent leur nom. S'il n'y a pas de victimes, ils disent il n'y a pas de victimes. Les pompiers vont arriver, tout. Ici, ils disent le nombre de morts, le nombre de blessés. Ils donnent un numéro de téléphone pour les parents qui veulent savoir. N'est-ce pas ici en France? Là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, ils disent, il y a 4 morts, monsieur un tel, qui a tel âge, qu'on a transporté à la morgue de tel hôpital, monsieur un tel, imaginez à la radio, il y a les blessés, telle personne, telle personne, telle personne, par leur nom, qui ont été transportés à tel hôpital, telle personne, telle personne. Ils disent tous les noms à la radio en même temps qu'ils disent les informations.
Donc ça vous permettait de savoir qui était en vie, qui était blessé, qui
et
était décédé.
Ils étaient où? Ça veut dire, je vous donne une expérience personnelle à nous. Maman était invitée à déjeuner. Son frère passe pour la voir. Il lui dit, ne bouge pas. J'ai quelque chose à faire à Fournichebec, ça veut dire le bourg juste à côté.
C'est un autre quartier de la
ville. Un autre quartier qui a même pas 10 minutes de chez nous, 5 minutes à peine. On peut aller à pied. J'ai une nouvelle voiture, je veux la voir. Et je reviens et je te dépose chez là où tu dois déjeuner. D'accord. Il part. Il lui dit, c'est une affaire de 10 minutes. Il part et maman entend une grosse explosion. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il n'arrive pas. Elle dit, ben, je vais voir. Elle ouvre la radio. Ils disent qu'il y a eu une explosion à Fournichebec, là où il allait, et qu'il y a les morts, tel, 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 il y a les blessés, et elle entend le nom de son frère. Et dans quel hôpital on l'a transporté? Donc, elle court, bien sûr. Mais pour vous dire que... Bon, elle aurait paniqué, elle aurait eu des doutes, le téléphone, le temps qu'il réponde, qu'il vérifie. Là, elle l'a eu direct à la radio. Ici, il y a quelque chose qui relève de la vie privée, que on peut pas se permettre de dire le nom d'une personne. C'est aux parents de demander, c'est confidentiel. Là, ils ont fait passer le confidentiel au second plan. Là, les gens qui entendent la radio et qui ont hâte de savoir des nouvelles de leurs proches, c'est pas la peine de les faire attendre. On dit ça direct à la radio. Il a tel âge, il s'appelle comme ça, fils de tel. On l'a transporté à l'hôpital tel.
Et à votre avis, pourquoi? Pourquoi on en parlait aussi ouvertement?
D'abord parce que c'est le caractère libanais. Ils se considèrent une famille. Deuxièmement, il y avait un côté aussi qui était important. Les téléphones ne fonctionnaient pas facilement. On avait beaucoup de mal déjà à avoir la ligne. J'ai des souvenirs où je prenais le téléphone, j'attendais et je manipulais pour déjà avoir une ligne avant de commencer à demander. Alors imaginez que vous êtes dans une détresse et vous ne savez pas comment joindre, comment savoir.
Beyrouth Ouest, hier, midi. Et 10 minutes environ par groupe de 2, les chasseurs israéliens larguent leurs bombes. Commencé à 6h du matin au sud de la ville, dans des quartiers désertés par la population mais toujours tenus par les Palestiniens, le pilonnage va lentement remonter vers le nord, cette fois-ci vers les quartiers habités.
Les obus tombaient partout. N'importe où, n'importe quelle place. Et c'est pourquoi la radio était importante. Parce que la première chose, dès que vous entendez une explosion ou un obus, vous aviez besoin de savoir c'est où, du moins où par rapport à vous, à votre sécurité. Et la radio est importante dans des cas pareils parce que elle est très proche.
Et pourquoi la radio et non pas les autres médias comme à l'époque pouvait être la télévision ou étaient les journaux par exemple?
La télévision, oui, c'est vrai, mais il y avait quelque chose qu'il faut tenir compte. Il n'y avait pas toujours l'électricité. Vous avez la radio sur les batteries. Bon, très souvent, la batterie commençait à faiblir, on changeait. La télévision, parfois, on avait envie de l'allumer et il n'y a pas d'électricité. Vous savez, avec la guerre, tout est en train de se détruire. Ils tapent une centrale électrique et le pays est plongé dans le noir. C'est... Ma radio, c'était un petit transistor. Je ne l'emmenais pas dehors, sûrement pas, mais je pouvais le traîner dans la maison, partout. Vous voyez, beaucoup de monde sont là à entendre la radio.
Et vous, vous écoutiez tout le temps ?
Si vous n'étiez pas collé à la radio, vous l'avez à côté de vous allumé. Parfois, ça vous attire l'attention, parfois, non, mais l'annonce du flash, alors là, vous courez savoir qu'est-ce qui se passe.
Pendant ce temps-là, dans un pays voisin d'Israël, au Liban, la guerre civile a repris avec une intensité qui n'a jamais été égalée. Dès la semaine dernière, en vous présentant les portraits des deux chefs de faction, Kamal Jumblah, le leader musulman, et Pierre Gemayel, le chef chrétien, nous vous le disions, leurs milices, formidablement armées, vont de nouveau s'affronter. Depuis deux jours, c'est fait, et avec quelle violence.
Une violence, un déchaînement qui ont permis aux milices de gauche d'entrer en force dans l'hôtel Holiday Inn. Victoire d'ailleurs très provisoire, puisque, quelques heures plus tard, les groupes armés chrétiens contre-attaquaient furieusement. Appuyés par des mortiers lourds, des lance-roquettes et des chars, les phalangistes réussissaient à reprendre une partie du bâtiment. L'hôtel Holiday Inn est un verrou qui commande l'entrée des quartiers chrétiens de Beyrouth, ce qui explique l'acharnement mis par les deux camps à vouloir le contrôler. Au milieu de l'explosion de violence, le gouvernement a pris deux décisions jugées indispensables au dénouement de la crise. L'une prévoit l'amnistie de tous les dissidents, c'est-à-dire surtout les déserteurs de l'armée. L'autre permettrait au chef de l'État libanais, M. Frangieh, de démissionner dans les formes légales alors qu'il refuse de céder à la force. Car à Beyrouth, malgré les désordres, le chaos, les combats qui font rage, dans chaque camp, on a toujours le souci de sauver la face.
Écoutiez-vous comme radio?
La voix du Liban. C'était, je ne sais pas, mais c'était la radio où on était habitué. C'était pas parce qu'une question de... Il y a quelque chose, que chaque radio avait une couleur politique. Et chaque radio donnait les nouvelles de la perspective qu'elle voyait ça. Parfois, c'est une grosse catastrophe. Une radio la donne catastrophe parce qu'elle est concernée. Une autre la minimise comme quoi.
Et est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cette radio, justement, ce que c'était, quand vous dites que chaque radio avait un peu choisi son camp, quel était le camp de cette radio?
La radio, c'était la radio chrétienne, la radio des forces libanaises.
Du parti phalangiste à l'époque.
Du parti phalangiste. Mais moi, c'était pas pour ça que je l'entendais. C'était d'abord parce que j'arrivais à la voir plus facilement. C'était plus net que les autres. La radio, ils étaient pour faire des interviews, pour faire des débats. On entendait, il y avait des débats. Il y avait des émissions, ce qu'il y a de... sur terre, disons. Par exemple, un monsieur appelle la radio pour leur dire il y a des poubelles pleines devant nous, c'est une source de... À qui on peut parler? Comment on fait? Ça fait des semaines qu'on en parle, personne ne... Attendez, elle appelle le ministre qui est chargé en même temps, en direct.
La journaliste?
La journaliste. Elle lui dit, c'est monsieur Intel qui dit ça, ça, ça. Il y a un tuyau crevé, disons, de l'eau qui va par terre. Elle appelle directement le responsable, tout en ayant les deux sur la même ligne. Voyez comment? Et elle lui dit, le monsieur dit ça, 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 ça. Oui, effectivement, l'histoire, c'est que... voyez, ça faisait ça un peu. Et il y avait autre chose qui était encore intéressant, c'est que la radio, c'était aussi pour... même pour raconter des blagues.
Pour s'amuser.
Pour s'amuser.
Pour se divertir.
Il y avait des jolies blagues que c'est la radio qui les donnait, pas moi, c'était la speakerine, tout en annonçant de temps en temps, ah oui, j'ai entendu une explosion, comme vous avez dû l'entendre de chez vous, ça, si mon oreille est bonne, ça doit être de ce côté-là, quelque chose comme ça, elle disait, ou n'ayez pas peur, oui, c'est le mur du son, c'est les avions qui ont passé. N'ayez pas peur, ça a passé à tel endroit. C'est ça la radio.
Ça vous arrivait d'écouter d'autres radios libanaises qui étaient oui, orientées plutôt dans l'autre
oui,
camp?
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand vous êtes dans une guerre, vous voulez entendre tous les côtés, voir chacun qu'est-ce qu'il raconte. Parce que c'est comme si de ce... dans la vie, s'ils deviennent ce qu'ils sont en bagarre, vous avez envie d'entendre les deux côtés. Le dernier souvenir que j'ai, c'est en 2006, quand Israël a commencé à bombarder. L'aviation tapait Beyrouth. C'était un bruit infernal. Bon, on entendait la voix du Liban pour savoir en détail où ça tapait. L'aéroport, le tatita, vous savez tout.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, en 2006, votre relation avec votre rapport à la radio a changé? Il y avait, depuis, il y a eu Internet qui a changé énormément les choses, qui a rendu l'information plus rapide. Mais votre rapport à la radio,
non,
il a changé?
Non, ça n'a pas changé. Pas au Liban, parce que quand vous êtes en guerre et que les moyens deviennent très limités, vous n'avez plus d'électricité, le téléphone ne fonctionne pas à volonté. Même en cas d'explosion, le portable s'arrête. Quand il y a une grosse explosion, ne croyez pas que vous pouvez prendre le portable et appeler à la minute. Il y a une coupure d'une demi-heure, le portable s'arrête. Donc, il n'y a que la radio. Et la radio à pile qui vous dit exactement. Mais on ne peut pas, c'est... Il y a Internet quand on a l'électricité. Mais quand il n'y a pas l'électricité, on ne peut pas faire ça.
Atelier@rfi.fr.
La radio permet de rester informé dans les moments les plus difficiles. Les migrants qui arrivent par centaines de milliers en Europe depuis quelques mois le savent bien. Certains ont même décidé de créer leur propre radio à Hambourg, en Allemagne. Elle s'appelle Refugee Radio Network, RRN. Nous allons la découvrir dans un instant. Restez avec nous. Merci. Acteur. Atelier des médias, nous célébrons aujourd'hui le média qui nous rassemble. Ce samedi, c'est la journée mondiale de la radio, une journée placée sous le signe de la radio en situation d'urgence et de catastrophe. Nous partons maintenant à Hambourg en Allemagne où un groupe de Nigérians réfugiés en Europe depuis 2011 a lancé il y a quelques mois une radio associative. RRN, Refugee Radio Network, diffuse sur Internet. Elle est reprise sur la FM allemande à Berlin, Munich ou Marbourg. C'est dans les studios d'une radio communautaire hambourgeoise, la radio FSK, que ces réfugiés produisent et enregistrent chaque semaine une émission de 2 heures, un programme qui s'adresse aux migrants, mais aussi aux populations des pays d'accueil, des pays européens. L'arrivée massive de réfugiés en Europe et en premier lieu en Allemagne, depuis quelques années, a engendré une crise humanitaire, politique, sociale. Quel rôle peut jouer la radio des réfugiés dans ce contexte? Élément de réponse avec ce reportage à Hambourg, signé Mélissa Barra, réalisation Simon Decreux.
This is a free hour on your radio. Welcome to InFocus. I'm Larry McCall. We're here to discuss and share opinions on issues affecting migrants and the economies. We pass the mic and be heard. Love freedom, love life.
You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialects. You will be fed with unusual diets. You got to sleep in a tarpaulin house, which is so hot. You got to sleep on a tarpaulin mat, which is so cold. Oh, we on time.
Living like a refugee,
I'm not,
is not easy.
Living
like a refugee,
ooh,
is not easy.
Oh, we on time.
Living like a refugee,
oh, nah,
is not easy.
It's really not easy.
Living like a refugee is not easy.
Radio is everywhere.
La radio est partout. On peut facilement la capter. J'ai l'impression qu'elle a un vrai pouvoir. Que vous soyez en train de marcher, de conduire ou que vous soyez chez vous, vous pouvez toujours écouter nos émissions. C'est un outil très puissant pour diffuser un message. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire de la radio, d'utiliser la radio comme un moyen d'exprimer nos revendications. Je m'appelle Sami Oje. Je viens du Nigeria et j'ai 35 ans. J'ai une femme et un enfant. Nous sommes partis ensemble de Libye en 2011 pour aller en Italie, puis en 2013, nous sommes venus ici, à Hambourg, en Allemagne. Avant le lancement de notre radio, nous étions déjà engagés dans la lutte sociale de Lampedusa à Hambourg. C'est un mouvement que nous avons lancé en tant que réfugiés. Nous sommes arrivés en Italie en 2011, puis nous sommes venus ici en Allemagne en espérant trouver du travail. Sauf qu'ici, on nous a dit qu'on ne pouvait pas travailler. Nous avons donc créé ce groupe et nous nous sommes mobilisés pour défendre nos droits sociaux. À ce moment-là, nous nous sommes réunis pour trouver une manière de faire résonner notre voix. C'est comme ça qu'est née l'idée de faire cette radio. À ce jour, nous avons mobilisé beaucoup d'activistes et organisé plein d'ateliers à travers l'Europe. C'est grâce à ça qu'on a pu raconter notre histoire à notre manière, sans que les autres médias ne le fassent à notre place. La radio est en fait notre meilleur outil, puisqu'elle permet de montrer exactement ce qui nous arrive. Dans nos émissions, nous évoquons la situation actuelle des réfugiés. Et quand les gens les écoutent, ils œuvrent pour l'améliorer. Je parle des gens qui se soucient des réfugiés, mais aussi des politiciens. Quand ils écoutent nos émissions, en tout cas, quand ils ont le temps de le faire, ils savent que nous disons la vérité. Il y a aussi des activistes qui travaillent en Allemagne ou ailleurs en Europe. Le fait de nous écouter leur permet ensuite de réfléchir ensemble à un moyen de résoudre le problème.
Mon nom est Macaulay Moore Larry Abiodun. Ich wurde am 8.4.1974 nach dem Bürgerkrieg in Biafra geboren. Wenn du nicht fliegen kannst, lauf. Wenn du nicht laufen kannst, gehe. Wenn du nicht gehen kannst, krieche. Aber was immer du tust, du musst dich weiter vorwärts bewegen.
Welcome to Sternschanze in Hamburg.
Bienvenue dans le quartier de Sternschanze à Hambourg. C'est un coin sympa. Il faut savoir que Hambourg est une ville pro-liberté.
Qu'est-ce que vous voulez dire par pro-liberté, pro-freedom?
Pro-freedom, c'est-à-dire que les gens d'ici se battent pour la liberté. Il y a des manifestations tous les jours à Hambourg. C'est d'ailleurs une des rares villes où l'on trouve cet état d'esprit.
C'est une ville très sociale. C'est un
very
social movement.
Oui, oui, très social, très social. Les habitants décident de ce qui se passe dans leur ville. Même le maire ne peut pas s'opposer à eux. Par exemple, il y a quelques mois, la municipalité a voulu se porter candidate à l'accueil des Jeux Olympiques. Mais les habitants ont refusé. Ils ont voté contre lors d'un référendum. Ils ont dit bye-bye aux Jeux Olympiques.
C'est un peu pour ça que vous avez choisi de fonder RRN ici?
Oui, parce que c'est une des rares villes où l'on peut créer ce genre de projet. Où on peut recevoir ce genre de soutien. Et où les gens nous écoutent. Ailleurs, c'est très difficile. À part Hambourg, Londres est peut-être la seule ville capable d'un tel accueil. Il n'y a pas d'équivalent en France.
Je m'appelle Larry McCauley.
Moi, c'est Larry McCauley, fondateur de Refugee Radio Network. Je viens de Jos. C'est l'épicentre de la violence ethno-religieuse au Nigeria depuis de nombreuses années.
Quelle est l'utilité de la radio, justement, dans les situations d'urgence? Comment elle peut aider les gens qui sont vulnérables, des gens qui sont dans un statut précaire, comme peuvent l'être les réfugiés?
En fait, la radio devrait être l'outil principal. Je vais vous dire pourquoi. Pendant cette crise migratoire, la radio aurait dû être privilégiée en tant qu'outil de communication pour les personnes en mouvement. Quand nous avons lancé Refugee Radio Network en 2014, les gens ne se déplaçaient pas comme aujourd'hui. On a commencé à entrer en contact via Facebook avec des gens au Liban, en Jordanie ou dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya. Et là, on pouvait déjà percevoir les mouvements. Ils étaient visibles sur Facebook. Il suffisait de communiquer avec eux, et c'est ce que nous avons fait. On a commencé à partager de l'information, à les renseigner sur ce qui se passait ici. Quand les réfugiés se déplacent, ils s'appuient principalement sur leur smartphone. D'abord pour l'Internet, ensuite pour s'informer. Et maintenant, certains écoutent la radio. Telle est notre démarche depuis le début. Peu de gens ont compris notre démarche. Les grands médias n'ont pas compris. Mais plus tard, ils ont eux-mêmes créé des tranches radiophoniques consacrées aux réfugiés. En octobre dernier, près d'un an après nous, WDR et les autres géants de la radio se sont mobilisés pour fournir des informations aux personnes qui arrivaient, qui se déplaçaient. Donc la radio est très importante dans des situations d'urgence.
Quel genre d'informations, par exemple ?
De l'information de qualité, des informations pratiques, où se rendre, comment s'y rendre, à qui demander de l'aide, où trouver refuge. Quand le mouvement migratoire récent a commencé, je me déplaçais continuellement avec les gens. C'était facile pour moi de parler avec eux, de les orienter. D'ailleurs, à l'époque, je ne les interviewais pas. J'étais trop occupé à leur venir en aide. Ces gens étaient épuisés. Et comme nous avons vécu la même chose qu'eux en tant que réfugiés, nous comprenons ce qu'ils vivent. Nous avons rangé les micros et les caméras et nous nous sommes retroussés les manches. On a une tranche à la radio qui s'appelle « Les lettres des sans-voix ». Quelques personnes m'ont écrit. Elles étaient à la recherche de membres de leur famille. Un Syrien et un Palestinien nous ont ainsi contactés. Donc, nous avons fait appel à notre réseau. Nous avons mené des recherches, interrogé les gens autour de nous et partagé des informations, des photos, des noms pour retrouver ses parents. Nous ne les avons pas trouvés, malheureusement. Mais c'est une manière d'utiliser la radio pour aider les gens. Ainsi, en tant que réfugiés et qu'activistes, nous sommes sur plusieurs fronts. Nous ne sommes pas des journalistes et nous ne travaillons pas pour générer de la publicité. Ça fait partie de notre vie. Il s'agit de résoudre les problèmes des gens, de les aider.
Hello, Refugee Radio City in Hamburg, the office of Mahmoudouza in Hamburg, and I'm here with Ali Al-Hassan. Yeah. Ali Al-Hassan, welcome to Refugee Radio.
So you see, what's Berlin now, the Basque? They do it in all Germany. Why? Because we need this net to connect and to share experience and to explain to some of the people who are 4 years fighting in the ladders, don't know what's going on. Then they have their right to fight. Because nobody will fight for you. You have to come out. And you have to come out to say, hey, I don't accept it. I know. Because we are not criminals. If you are a refugee, maybe you are a refugee, you have your rights.
Donc ici, c'est le centre-ville de Hambourg. Et la tente que vous voyez là, c'est le centre de sensibilisation du mouvement Lampedusa in Hambourg. Ils l'ont placé à cet endroit dans un contexte de lutte sociale. Nous sommes nombreux à être arrivés à Hambourg. Traversons la rue. C'est depuis notre arrivée que nous faisons partie de ce mouvement. Réfugié Radio est venu ici. Deux membres du groupe Lampedusa à Hambourg comptent d'ailleurs parmi les fondateurs de la radio. Allons-y.
How long has it been there? Since
2013.
La tente est là depuis 2013. C'est un mouvement qui existe depuis plusieurs années. Vous verrez que ce sont surtout des victimes de la guerre en Libye de 2011 qui sont là. Ils organisent beaucoup d'activités et d'événements. Par exemple, ils étaient en France récemment pour manifester leur solidarité avec les habitants de la jungle de Calais. Venez, venez, je vais vous présenter Patrick. C'est ici que le groupe se réunit depuis 3 ans maintenant, n'est-ce pas Patrick ? Cette tente est le symbole de notre lutte sociale, le symbole du mouvement Lampedusa à Hambourg, et aussi le symbole de tous les réfugiés.
My name is Patrick. I'm from Ghana. I'm a member of Lampedusa in Hambourg.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici?
Oh, je suis ici, ça fait près de 4 ans, mais le groupe a commencé 3 ans, depuis 3 ans. Quand le groupe a commencé, tu vois, tu connais l'histoire de Lampedusa? Oui, l'histoire de Lampedusa. Nous tous, on était travaillés en Libye. Tout le monde travaillait en Libye. Quand la guerre a commencé, au début, on dit la guerre civile. Mais après, l'European Union a rentré dedans. Ça a commencé à supporter les rebelles. Donc, quand la guerre a commencé comme ça, toute la route de Libye, pour sortir en Libye, c'était bloqué. Donc, il n'y a pas d'autre option puisque tu vas traverser la mer. C'est pourquoi tout le monde a traversé la mer. C'est depuis 2011 que nous sommes en Europe. On a fait 2 ans. Après 2 ans, on est en Italie, demander asile en Italie. Après 2 ans, on nous a donné un document. Mais on ne peut pas travailler avec ce document si ce n'est pas en Italie. En Italie aussi, il y a beaucoup de choses. Le problème là-bas, il n'y a pas de travail. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Sinon, il y avait 350 personnes qui ont formé ce groupe Lampedusa en Hambourg.
Donc, si l'on se branche sur Refugee Radio Network, qu'est-ce que l'on peut entendre? Quelles sont les émissions? Quel est le contenu?
Actuellement, vous pouvez entendre une variété de programmes avec une multitude d'interviews que nous avons effectuées. Mais ce que nous essayons de faire surtout, c'est de nous focaliser sur les principaux problèmes et les principales souffrances que vivent les réfugiés en Europe. C'est ce que nous donnons à entendre aux gens en premier lieu. Nous essayons aussi de faire en sorte que les réfugiés soient mieux considérés dans la société, car ils doivent faire face aux problèmes posés par le règlement européen de Dublin 2. Comme nous avons déposé notre demande d'asile en Italie, nous ne pouvons pas travailler en Allemagne. Ce genre de barrières nous mettent à l'écart et nous empêchent de nous intégrer. Voilà, ça fait partie des difficultés que nous essayons de surmonter. Pour cela, nous voulons briser le silence. Beaucoup de gens en Allemagne ne savent rien sur le règlement Dublin 2. Ils ne savent pas pourquoi, parmi les nouveaux arrivants, quelques-uns seulement ont le droit de travailler. Il faut que les gens sachent ce qui se passe et quel est le problème. Mais il y a aussi d'autres difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que les gens ne connaissent pas et que nous évoquons dans les différentes émissions. On propose par exemple une libre antenne. Les auditeurs nous appellent pour interagir avec nous autour d'un sujet. Je trouve ça très intéressant. Mon rôle consiste à présenter l'actualité du monde. Quand on parle des réfugiés, on ne parle pas uniquement de l'Europe, mais aussi de l'Afrique et de l'Asie. Dans la mesure où une situation concerne les réfugiés, on en fait une information dans nos émissions. Il s'agit de dire à nos auditeurs, Voilà ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé hier. C'est ça notre travail.
Y'a du sourire à nos carreaux. Je savais pas qu'on était temps. Et tu m'as réveillé si tôt. C'est une marche de débraillés qui se défile le nez en l'air. Ça sifflote tout en fierté. Tout ce qu'ils ont aimé hier. Voilà les gens qui rythment en rire en se partageant chaque pas. Ils ont pris l'horizon en mire. En cadençant d'une, nous voilà. C'est beau, c'est du n'importe qui. Regarde-les lever le soleil. En se fabriquant une vie. Vivement demain. Et pas pareil. À force d'attendre le grand soir. Ils sont partis de bon matin, avec ce qu'il leur restait d'espoir, tout droit. Puisque c'est de là qu'on vient.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine à Hambourg en Allemagne. Depuis un an et demi, un groupe de réfugiés a lancé Refugee Radio Network, un média qui parle des migrants aux migrants et aux populations d'Europe. Refugee Radio Network, RRN, a été initié par des Nigérians venus en Europe après avoir été contraints de fuir la guerre civile en Libye. Depuis le mois d'octobre, l'équipe s'est diversifiée en accueillant notamment un jeune Syrien à peine arrivé en Allemagne.
I'm Moaz from Syria.
Moi c'est Moaz, je viens de Syrie, de Damas.
I will be next this
weekend. Le week-end prochain, j'aurai 22 ans.
A normal person before the,
en Syrie, before avant que les manifestations commencent, j'étais une personne normale.
And then after I start to demonstrate,
puis j'ai commencé à manifester contre Bachar el-Assad. Je suis allé en prison cette fois à cause de ça et aussi parce que je réalisais des vidéos, des photos, des interviews pour défendre la liberté en Syrie. Dans mes vidéos, je cherchais seulement à mettre en évidence les exactions du pouvoir, montrer ce qu'ils faisaient. J'en parlais tous les jours. Deux ou trois fois, j'ai réalisé de longues interviews qui allaient à l'encontre du président syrien. Environ 500 personnes ont vu ces vidéos où j'exposais ce qu'il avait fait. À l'époque, j'étais jeune, j'avais environ 18 ans.
Et quand est-ce que vous êtes parti de Syrie ?
C'était en 2013. J'ai vécu deux mois au Liban, puis un an et demi en Égypte. Mais là-bas, j'ai eu des problèmes avec Daesh. Parce que, comme beaucoup de gens, je ne suis pas croyant.
Quel est votre rôle chez Refugee Radio Network?
I make sometimes interviews some.
Parfois, je fais des interviews de nouveaux réfugiés, d'Allemands ou de personnes que je trouve intéressantes, pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ont vécu.
Or sometimes I make videos and pictures.
Parfois, je fais aussi des vidéos. Je prends des photos et j'anime des émissions.
Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'interview que vous effectuez, des petits reportages, comment ça se passe?
Yeah, I had some people he help new refugee come to Hamburg.
J'ai interviewé par exemple une personne qui aide les nouveaux arrivants. Il les accueille à la gare centrale de Hambourg. Il discute avec eux, il les aide et leur donne de la nourriture alors qu'il est lui-même réfugié. Ça fait seulement 5 ou 6 mois qu'il est en Allemagne. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, alors qu'il a sûrement lui-même des problèmes, alors qu'il pourrait employer son temps à apprendre l'allemand ou faire autre chose. Cela m'intéressait de savoir. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir dire aux auditeurs que nous, les réfugiés, on est des êtres humains et qu'on n'est pas venu leur voler leur argent.
Mon nom est Mohamed Dirk Bani. Ich wurde am 6.2.1995 in Damaskus, Syrien, geboren. In meiner Kindheit blieb ich für mich selbst. Dort in der Schule wollten nicht meine Freunde werden, weil meine Religion eine andere Form des Islams als ihre war. Nun verbrachte ich die meiste Zeit mit meiner Familie zu Hause. Ich hatte alles, was ich wollte und keine Probleme.
Donc c'est politique, c'est aussi pédagogique, c'est-à-dire des informations pratiques. Mais on utilise également la radio pour donner aux réfugiés qui sont déjà ici des outils qui leur permettent de se réaliser. Par exemple, si vous êtes poète, elle vous permet de faire de la poésie. Si vous êtes chanteur, vous pouvez chanter. Si vous êtes artiste ou acteur, nous vous encourageons à produire des émissions de divertissement. En tant que réfugié en Europe, vous devez suivre des lois très strictes. Vous jouissez de peu de droits. Vous jouissez d'une liberté d'expression et d'une liberté artistique. Vous pouvez manifester votre liberté d'expression de plusieurs manières à travers l'art. En Allemagne, l'art est libre. On nous a refusé le droit de travailler ? Très bien. Au moins, on a notre liberté de mouvement et notre liberté d'expression. Donc nous nous exprimons de manière artistique, de manière théâtrale et de manière politique.
Il y a aussi des programmes où les réfugiés ou les auditeurs peuvent s'exprimer, où ils peuvent lire des poèmes, ils chantent, ils peuvent raconter des récits personnels. C'est quoi ?
Actually, it's about what the refugee himself feels.
L'idée, c'est de leur permettre de partager leurs ressentis. Un de nos collaborateurs, par exemple, recueille des récits, des témoignages et les met par écrit. Il s'agit de se concentrer sur le ressenti des réfugiés et sur l'image que les gens ont d'eux. C'est pour ça qu'il compose des poèmes. Ces poèmes ont beaucoup de succès parce que les gens compatissent, ils partagent un peu la douleur que l'on ressent en tant que réfugiés. Avant, nous n'étions pas des réfugiés. Avant, nous vivions et travaillions comme des gens normaux. À cause de cette situation, on nous a imposé l'étiquette de réfugiés. Il y a des gens qui ne savent pas que ce n'est pas à cause des migrants originaires d'Afrique que le terme réfugié a été inventé. Le terme a été inventé après la Seconde Guerre mondiale. Mais les gens pensent que les réfugiés sont improductifs. Ils pensent que les réfugiés sont des mendiants, qu'ils ont un problème. C'est à cause de ça que l'idée nous est venue. La plupart des réfugiés sont productifs, la plupart savent s'intégrer, la plupart peuvent donner davantage, la plupart peuvent contribuer de manière positive à la société, et non pas de manière négative.
Refugee Radio Network, City of Hamburg, live in our studios in Kathmandu. I'm Larry El Capitan. Welcome to the studios. Today I have a very important guest in the house. I have Brother Steve, the poet all the way from Cameroon, who lives here in Hamburg. Brother Steve, you're welcome to Refugee Radio Network.
Thank you, Larry.
Theater, business, poetry.
Yep.
What makes you happy as a man?
Well, that's a difficult question. What makes me happy? It makes me happy to feel accepted, to feel here like I feel home. I sometimes have these moments, but I also have moments where it's difficult. I have, like, I miss my place, home. I miss, you know, the society, community, and people consider you as one of theirs. And yeah, of course, sometimes I have it here in Germany, my school, for example, nice colleagues that invite me for many events, and it makes me happy. It makes me happy to be with people, and that we feel like a society.
Refugee Radio Network, la radio des réfugiés de Hambourg, était un reportage de Mélissa Barra, réalisation Simon de Creuse.
Voice Here Come, das Land von Roger Miller, et ton fils sont un Timothée à Trouba. Bamiers Fußball, Symbol des Landes, und überall spielen Kinder barfuß auf der Straße. Wo ich herkomme, wollen Frauen ein Mann für immer, die träumen nur von einer Familie und für sie ist Glück viele Kinder. Wo ich herkomme, fließt der Tanz in Blut, die Musik zerfrisst die Wut und bringt dem Volk mehr Mut. Wo ich herkomme, scheint die Sonne den ganzen Tag. Die Wärme herrscht Tag und Nacht und Melanin macht die Haut schwarz. Wo ich herkomme, die Schönheit des Sonnenuntergangs, die Koschheit der Luft ist so ganz und der Genuss des Lebens ist meins. Wo ich herkomme. Thank you.
That's very powerful.
L'atelier des médias était signé Simon De Creuse, Mélissa Barra, Manon Mella, Mathias Virili, Ziad Malouf. Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations et les versions SoundCloud de nos émissions. Rendez-vous également sur notre site pour des liens vers la Journée mondiale de la radio et son site dédié. Rendez-vous enfin sur toute bonne application de podcast pour ne manquer aucune de nos productions. Pour celles et ceux que cela intéresse, nous allons bientôt lancer une vague de recrutement Mondoblog. Restez connectés pour en savoir plus et rendez-vous même lieu, même heure pour l'émission. Dans 7 jours, nous serons avec le politologue Benjamin Loveluc, auteur de Réseau, Liberté et Contrôle,